Bonsoir bien-aimé.
Bonsoir.
Je voudrais que ce soit particulièrement que tu prêtes attention. Dieu veut traiter avec toi de façon particulière. Je voudrais t'inviter à laisser les bagages avec lesquels tu es venu. On a adoré, c'est vrai. Mais il faut que toi, tu entres dans l'atmosphère qui permet à Dieu de te parler. Dieu veut communier avec toi ce soir. Et s'il doit communier avec toi, il faut que tu entres. Si tu n'entres pas dans l'intimité avec Dieu, tu vas rester dehors. Tu vas sortir d'ici comme tu es entré. Il y a la guerre dans l'air. On se comprend? Et la guerre dans l'air, on va prier, nous prions.
Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir. Nous implorons ta grâce dans ces lieux. Nous prions que l'atmosphère, Seigneur, soit établie de manière à ce que ton règne, Seigneur, soit manifeste. Oh Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Ta parole nous déclare, là où nous sommes assemblés de toi, tu es là présent. Et nous saluons ta divine présence dans ces lieux de prière. Nous prions, ô Père, que les brebis venues à ta rencontre communient à ta table. Que chacune d'elles soupe, Seigneur, à ta table. Que chacune d'elles se nourrit dans ta présence. Nous sommes fatigués des religions. Nous sommes fatigués de faire les mêmes choses qui ne produisent pas d'effet. Nous sommes fatigués de commencer programme sur programme qui n'a pas d'impact et qui ne transforme pas. Nous sommes fatigués, Seigneur, de confesser les mêmes choses tous les jours. Nous sommes désireux de te rencontrer. C'est toi seul que nous voulons voir ce soir. Nous ne sommes pas venus voir les roseaux agités. Nous ne sommes pas venus pour une soirée en plus. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, remplir les formalités. Oh Dieu vivant, nous ne voulons pas remporter un palmarès selon lequel nous avons encore jeûné 30 jours. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est ta rencontre. Notre objectif, c'est l'intimité avec toi. Notre objectif, c'est souper à ta table. Notre objectif, c'est toi, Seigneur. Nous sommes désireux de toi. Seigneur, si tu nous lâches, ces moments sont comme une tontine. C'est une perte de temps. Nous avons besoin de toi. Nous sommes désireux, Seigneur, de voir ton règne s'établir. C'est pourquoi nous t'en supplions. Ô Père, manifeste ta puissance et que les forteresses du monde des ténèbres soient mises hors d'état de nuit. Que toute forme d'empire maléfique soit mise hors d'état de nuit. Les fardeaux de la semaine, Seigneur, soient mis hors d'état de nuit. Soient mis au dehors, poutés loin de nous. Seigneur, nous prions maintenant que tu nous rendes totalement disponibles. Nous sommes assoiffés, Seigneur, de manger à ta table. Nous sommes assoiffés, pardon, Seigneur, de boire à ta table. Et nous sommes affamés, désireux de manger à ta table. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi et de toi seul simplement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Les deux premières journées, la première partie du thème a traité de bien commencer. Bien commencer. Ou commencer bien. Comme disait le pasteur qui était ici l'autre jour. Commencer bien ou bien commencer. Voilà le thème par lequel nous avons fait entrer en matière. Et si nous nous rendons bien compte, il y a un mot-clé dans commencer. C'est la réconciliation avec Dieu, c'est l'alliance avec Dieu, c'est une relation père-fils qui doit s'établir. Si elle s'établit, vous avez les clés pour initier votre marche jusque dans l'éternité. Vous avez la clé qui vous permet de commencer à manifester l'homme surnaturel. Écoutez-moi, personne ici n'est né là pour remplir le vide. Personne n'est né pour accompagner les autres. Chacun d'entre nous fait partie d'un plan global de Dieu dans lequel il est une pièce maîtresse. Dans lequel il n'est pas une pièce de remplacement. Dans lequel il est une pièce maîtresse pour accomplir des œuvres particulières que Dieu a préparées avant que tu n'arrives. Écoute-moi bien. Si tu ne fais pas ton devoir sur la terre et tu quittes la terre, personne ne pourra le faire pour toi. Il y a une signature particulière qui vient de ton intimité. Une signature particulière que Dieu t'a donnée dans l'invisible avant que tu ne rejoignes ce monde. Il y a quelque chose que tu dois faire. Le monde est affamé. Désire voir une nouvelle race d'hommes et de femmes qui s'élève et qui parle au nom de Dieu. Mais on attend l'église, on ne la voit pas. Où sont les chrétiens? Ils sont assis dans la religion.
Bien-aimé, je suis venu ce soir te dire une chose. Je suis venu te dire une chose simple. Si tu gardes l'alliance avec Jésus, tu es né de nouveau, c'est une bonne chose. Mais ça ne va rien donner tant que tu gardes certaines choses en toi. Tant que tu ne peux pas te libérer d'un certain nombre de choses. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est quoi? Dieu est capable de t'affranchir. C'est parce que beaucoup d'entre nous, quand nous naissons de nouveau, nous nous tournons à Dieu. Et maintenant, une histoire nouvelle commence, où Dieu veut refaire chaque chose. Mais il se passe qu'il y a encore des batailles. Quand on dit Dieu est capable, quand on utilise le verbe, quand on utilise le mot capable concernant Dieu, c'est pour dire que quelque part, l'être humain qui veut comporter avec Dieu parfois n'est pas totalement crédule. Il ne fait pas confiance au Dieu qui peut l'amener là où il va l'amener. Il y a des habitudes qui se sont établies dans ton histoire, se sont établies dans ta façon de penser, dans ta mentalité, et qui conditionnent ta façon de réagir, qui conditionnent ta façon de te déployer, et qui empêcheraient au Dieu Tout-Puissant de faire descendre sa présence dans ton histoire. Quand on utilise, quand on te dit tu es capable, ou alors si je te dis je suis capable, ça suppose qu'en arrière-fond, il y a une espèce de remise en question de nos moyens pour pouvoir transcender des problèmes. Et à des moments, ça passe dans nos vies, que tu sois chrétien ou non, ça passe dans nos vies l'idée de se demander, est-ce que Dieu pourra vraiment faire ci? Est-ce qu'il pourra vraiment faire ça? Est-ce que Dieu pourrait vraiment me libérer? Est-ce que Dieu est capable de changer mon histoire? Est-ce que Dieu peut véritablement me libérer de ce que j'ai fait là? S'il connaît véritablement ce que j'ai fait là, est-ce qu'il est capable de m'en délivrer? La question passe souvent et repasse. Mais d'où vient-il que Jésus paye le prix pour toi et que tu sois encore à te poser la question, est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose? Il se passe que dans notre histoire, il y a des choses qui se sont établies et qui sont devenues des forteresses, qui sont devenues des zones de résistance au projet de Dieu. Ce n'est pas la capacité de Dieu en fait qui est remise en question, mais c'est que nous avons traversé des chemins qui nous donnent l'impression que la nouvelle créature n'ira pas loin, qui nous donne l'impression que la nouvelle créature ne pourra pas percer. Et beaucoup sont nés de nouveau, ils ont un jour confessé Jésus, mais très peu de personnes percent. Pourquoi? Cette même question, les forteresses qui se sont assises, ces forteresses, tout, elles prêchent à la chair de ton esprit, elles prêchent à la chair de ton imagination, elles façonnent des images, elles te font concevoir Dieu d'une certaine façon, te font concevoir le salut de Dieu d'une certaine façon. Et c'est pourquoi l'église de Christ est toujours dans les murmures, toujours dans les plaintes, au-delà de ce que Dieu a fait. Jésus a initié la marche d'une nouvelle église, d'un nouveau peuple affranchi des esclavages sataniques. Mais les choses passées continuent à faire effet, continuent à parler dans l'histoire de beaucoup. Pourquoi? On se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment capable? Est-ce que... Mais à un niveau, ce n'est même plus Dieu est capable. Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que l'affaire là va tenir? Et je me rappelle d'une petite soeur à qui j'ai prêché l'évangile un moment. Elle était dans cette communauté. Elle me dit, papa et moi, je lui dis oui. Elle me dit, plusieurs fois j'ai accepté Jésus, tu es témoin. Mais je suis monté dans, la, dans le bateau. Ou alors je me suis mis sur le pont. Le pont s'est cassé. Je n'ai pas pu traverser. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Elle dit, je ne vois pas ce qu'on a promis dans ma vie. Je ne vois pas ce que l'évangile a promis dans ma vie. L'évangile a promis une église victorieuse du péché, séjour des morts. Je ne vois pas cela dans ma vie. Combien sont ici ont confessé Jésus et continuent à confesser Jésus jusqu'à aujourd'hui? Chaque fois on lance l'appel, il se lève pour répondre à l'appel. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez toi pour que chaque jour tu répondes à l'appel? Chaque jour tu répondes à l'appel. La présence de Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on doit voir ce soir. Ce n'est pas est-ce que Dieu est capable? Non, on va entrer là-dedans. C'est la plus petite chose. Chacun d'entre nous, chaque conscience, sait que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est que Dieu, s'il décide de quelque chose, ça arrive. Même les bandits le savent. Même les délinquants le savent. Ce n'est pas là le problème.
Écoutez-moi, la capacité de Dieu à t'amener dans le règne de Dieu n'est pas le vrai problème fondamental. Après que tu sois né de nouveau, écoute, tant que tu es enfant, quand tu es né de nouveau, si Satan ne réussit pas à te freiner par ce qu'on va dire ce soir, tu vas percer. Mais il se passe que beaucoup ne percent pas parce que ils sont nés de nouveau. Un jour, ils ont confessé Jésus. Quand vous lisez Marc 9, là-bas, on se rend compte. Les apôtres avaient confessé Jésus. D'ailleurs, Jésus les envoie deux par deux. Ils se mettent en chemin. Et quand ils vont, ils se rendent compte que les démons les sont soumis. Ils rentrent et confessent que les démons les sont soumis. Quelques instants après, Jésus les envoie pour le cas des petits enfants. Et arrivés là-bas, ils font un échec. On ne comprend pas, est-ce qu'ils n'avaient pas cru? Qu'est-ce qui se passe donc? Que les gens qui avaient cru tout à l'heure, devant les cas des démons, les démons ont fléchi la tête, ils ont fléchi les genoux. Prochain cas, c'est échec. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils n'avaient pas cru? Moi, j'ai regardé la question et je suis interrogé. Parce qu'on parle d'incrédulité. Les gens pensaient souvent que c'est quelqu'un qui n'a pas absolument connu le Seigneur. Non, il n'est pas question de quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur, mais qui sont incrédules. Et Jésus leur dit qu'ils ont fait échec devant l'enfant à cause de leur incrédulité. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à décoller dans leur vie? Un problème d'incrédulité. Incrédulité, ça veut dire absence de. Crédulité, c'est la foi. Et la racine en grec, c'est pistis. Ce qui veut dire la foi. L'absence de foi ou l'incrédulité, c'est apistia. Apistia, c'est l'absence. C'est comme si j'étais habillé, on me déshabille. J'ai la foi, on arrache la foi. Du coup, l'incrédulité devient un esprit, devient des esprits chargés de résister à la création de peur qu'elle entre dans le plan de Dieu, dans le grand plan du règne de Dieu. Satan déploie des forteresses, des puissances pour se rappeler confesser Jésus-Christ hier, qui a accepté Jésus-Christ, n'entre pas dans le règne. Jésus en partant a dit, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et nous regardons l'église appauvrie, amoindrie, rendue chétive. Nous regardons une église qui confesse tous les jours la délivrance, mais une église aux chrétiens qui ne voient pas la délivrance. Combien de chrétiens ont vu ce que Dieu a promis dans la Bible? La Bible déclare, voici c'est les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ci, ils feront ça. En mon nom, ils feront. Combien ont vu ça dans leur vie? Combien voient la liberté vraie dans leur vie? Combien vivent la vie des enfants rachetés dans leur vie? Pourquoi il se passe un mystère? L'incrédulité, apistia. C'est-à-dire que l'absence, Satan s'arrange à te déshabiller du vêtement de la foi. Te dépouiller de ce qui permet d'opérer dans le milieu spirituel. Écoute, nous avons un vêtement spirituel qui nous permet d'opérer dans le monde spirituel. Et ce vêtement spirituel, c'est le vêtement de justice qui opère par la foi. C'est par la foi que nous opérons dans le monde spirituel. Et pour devenir des agents de Dieu, des frères de la race de Jésus, commencer à manifester le Christ sur la terre, il nous faut ce vêtement, il nous faut cette alliance. Il faut que les choses soient établies. Tant que tu ne les as pas personnellement, tu peux faire le folklore, tu peux faire la tontine à l'EEC, tu peux faire, je ne sais pas moi quoi, les réunions, les programmes, 30 jours, 40 jours, tu ne vas pas opérer, ne t'ennuie pas. Tu ne vas pas opérer. Ce sont des forces qui sont dans l'air, qui se chargent de résister à l'église, qui se chargent d'empêcher l'église d'entrer dans le merveilleux plan de Dieu. Ces forces-là sont tapies tant dans l'histoire que dans ta connaissance, que dans des relations, que à plusieurs niveaux, ces forces se tapissent et gardent silence. Et quand tu n'as pas le courage de les dénuder, de les déposséder, de les amener à la croix pour que Christ accomplisse son œuvre qu'il a déjà fait spirituellement, qu'il la manifeste, tu vas rester pendant longtemps à ta place. Tu vas confesser Jésus, faire le njangui à l'église. Chaque dimanche, on se met ici, on fait la tontine, tu chantes, tu danses, tu portes tes problèmes, tu vas t'asseoir au quartier, ça t'appuie comme ça t'appuie. Et tu te retrouves ici, tu vois les gens, tu demandes aux gens que mais ça m'arrête que moi seul. Moi, ils ne comprennent pas. On avait dit que la fête là devait donner. Ma part ne donne pas. Il y en a qui n'ont même pas le courage de dire que ça ne donne pas. Ils sont là, ils avalent simplement leur douleur, leur déception en silence. Ils espèrent qu'un jour, ça va finir arriver. Combien sont ici? Tu es en train de vieillir, tu as pris beaucoup d'âge et tu es en train d'aller vers la mort. Tu ne sais pas là où tu partiras si tu fermes les yeux. Combien sont ceux de là où ils partent s'ils ferment les yeux?
Combien?
Écoute, Dieu a tellement investi sur l'église que Dieu est déçu de ce qui se passe dans l'église au Cameroun. L'église au Cameroun est loin des aspirations de Dieu et est en train de souffrir. La nation souffre comme ça parce que l'église n'est pas à sa place. L'église, ce n'est pas une prison, c'est toi et moi. C'est nous deux qui formons l'église. Écoute, si nous ne prenons pas notre place, le monde souffre. Dieu va faire des grands projets qui ne vont pas arriver. Ce soir, Dieu te dit qu'il est capable de te prendre, de te libérer de ta franc. Quel est le joug avec lequel tu es entré ici? Quelle est la chaîne qui pèse encore dans ta vie? Quel est le problème, l'habitude, le caractère, les mentalités qui pèsent encore en toi? Jésus veut traiter avec ces mentalités les profondeurs les plus retirées de ton être. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Écoute, je vais balayer un chapelet rapide
des problèmes que nous pouvons rencontrer au moment où nous avons cru.
La première forteresse qui nous résiste, le moment où tu dis que tu donnes ta vie à Jésus, tu commences à confesser Jésus-Christ dans ta vie, c'est les forteresses des raisonnements. Est-ce que ça s'est vraiment passé? J'ai fait ça la fois dernière, ça n'a pas donné. Je ne sais pas si ça va donner cette foi. La fois dernière, on a dit que levez-vous prier. La preuve, on a dit que levez-vous prier sur l'endroit qui fait mal. J'ai prié ma part, ça n'a pas d'eau. J'ai même vu les gens s'enrouler. J'ai attendu que ma part se passe aussi, on ne sait pas. Je ne comprends pas. Je suis que venu décorer l'église où Dieu m'a oublié. Beaucoup de gens ont ces questions. Les raisonnements, les pensées qui viennent de l'enfer. La première arme que Satan aime utiliser, lorsque quelqu'un a cru, lorsque tu as confessé, tu veux te détacher de l'ancienne vie, c'est les raisonnements, les systèmes de pensée, les systèmes de fonctionnement. On a toujours fait comme ça. Dans ma famille, on fait comme ça. Les façons de lire la vie. Satan se rassure que tu n'opères pas à la dimension de l'esprit, que tu opères à la dimension de la sensation et de la vue. Que ce soit ta vue qui opère, que ce soit ce que tu as vu dans ton histoire qui continue à opérer. C'est pourquoi quand on te dit, lève-toi, crois. Le pouvoir de Satan est fini dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es délivré de la maladie. Tu commences à tâter pour voir si ça s'est passé. Tu tâtes pour voir si ça s'est passé. Tu ne crois pas. Mais tu tâtes pour voir si flic-on-pire, ça s'est passé. Ça s'est passé. Gloire à Dieu! Et tu tâtes. Tu tâtes comme un charlatan. Ce n'est pas ça. Dans la maison de Dieu, on ne voit pas avant de croire. Dans la maison de Dieu, on croit et ça arrive. Mon juste vivra par la foi. Nous allons lire Hébreux 10, verset 38-39. Voilà le modus operandi de Dieu. Dieu veut agir. Il opère par un principe. C'est par la foi. Tant que tu n'entres pas dans ce principe, tu vas raisonner et raisonner. Et la chose que nous pouvons faire pour renverser les raisonnements, c'est non seulement confesser la parole de Dieu, la méditer et la confesser devant les situations, c'est prier et prendre autorité même de jeûne. Ce sont des esprits chargés de te ramener dans le passé. Ce sont des esprits chargés de mission pour t'amener, se rassurer que tu ne sortes pas de ta nature naturelle. Te rassurer que tu ne sortes pas de tes fardeaux du passé. C'est pourquoi tu entres à l'église, tu t'assieds comme tu t'assieds. Les mêmes habitudes recommencent. Tu apprends ici des choses nouvelles. Tu es fortement motivé, fortement zélé. Mais tu ne vois pas ces choses opérer dans ta vie. Tu ne vois pas ces choses opérer dans ta vie. Pourquoi ça? Pourquoi ces choses n'opèrent pas dans ta vie? Simplement parce que tu n'es pas dans le mode opératoire du Dieu vivant. Hébreux 10, 38, 39, rapidement, faisons vite. On n'a pas beaucoup de temps.
Hébreux 10,
38, 39.
38, 39.
Merci.
Ok. Là, il est écrit. Et nous, juste, vivra par la foi.
Et
mais
juste.
Et mon juste vivra par la foi.
Et le juste, Dieu, celui qui est justifié, habit de Dieu, au Père, il vit par la foi. Il se déploie, il croit, il se détend, il envahit, il prend possession, il s'établit, il se réjouit par la foi. Voilà le mode opératoire de Dieu. Il n'y a pas d'autre mode opératoire. Tous ceux qui refusent de débloquer le compteur de la foi pour vivre dans ce monde sont appelés à mourir, même si tu fais l'église. Même si tu as pour amis les plus grands intercesseurs, tu vas mourir parce que
tu ne peux pas opérer dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est la foi qui nous rend opérants dans cette dimension. Oui, continue.
S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Écoute, Dieu ne prend pas plaisir en toi si tu utilises d'autres moyens que la foi. Si tu dis que tu as cru, et ton bâton d'appui, ce sont tes expériences. Ton bâton d'appui, ce sont tes relations. Ton bâton d'appui, c'est les CFA. Ton bâton d'appui, ce sont tes routines, tes calculs que tu as établis. Tu ne peux pas percer avec Dieu. Impossible. C'est une équation que personne ne peut résoudre pour toi si ce n'est toi-même dans l'intimité avec Dieu. Écoute-moi bien. Si on fait tout ce qu'on fait là, tu ne perces pas cette muraille, ce voile qui existe entre toi et Dieu. Tu ne perces pas ce mystère pour saisir les armes de Dieu. Tu ne peux pas opérer dans le monde de Dieu. Si tu veux faire tout ce que tu fais, tu vas caler au rang d'un bébé, d'un enfant. On va dire qu'un jour tu avais confessé. Nous, on était là. Mais est-ce que tu opères? Tu n'arrives pas à opérer. Pourquoi? Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Et tant que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne peux pas être efficace dans la bataille. C'est pourquoi Dieu a tellement investi dans son église, l'église puissante aujourd'hui, pour les situations dans les familles. Mais on regarde les familles, elles restent dans les chats, elles restent avec plein de problèmes. Parce que les chrétiens, les supposés chrétiens qui y sont, ne sont pas efficaces, ils n'opèrent pas par la foi. Écoute, tant que tu n'as pas déchiré ce voile pour toi-même, personne ne peut le faire. Rester en dehors de la foi, écoute-moi bien. Tu vas aimer les gens qui opèrent pas à la foi. Dieu va dire des promesses, ça va rester dans le ciel. Ce ne sera pas pour toi. Écoute-moi très bien. C'est un duel que tu dois remporter. Dieu a fait tout pour que tu le remportes. Dieu a mis tout en marche pour que tu le remportes. Mais pour le remporter, il va falloir que tu acceptes laisser Dieu agir. Si tu ne laisses pas Dieu agir, bien-aimé, on va rester tous ensemble. On sera à Tamja. Mais tu vas voir des gens opérer, tu n'opères. Pas parce que Dieu t'a moins aimé que les autres. Pas parce que Dieu est incapable d'agir avec toi. Pas parce que Dieu est incapable de composer avec toi. Mais parce que tu n'es pas dans son mode opératoire. Tu n'es pas dans sa façon de faire. Tu n'es pas dans son programme. Tu n'es pas dans sa mentalité. Tu n'es pas dans sa façon de se déployer. Frère, tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas passer, tu perds le temps à l'église. Je suis en train de dire aux gens qui perdent le temps. Et de plus en plus, Dieu me dit que les gens perdent du temps dans sa maison. Dieu me dit. Les gens perdent du temps dans la maison de Dieu. Dieu vous attendait ailleurs. Dieu a investi beaucoup en vous pour vous voir opérer à une autre dimension. Mais très peu sont en train d'étendre vers seulement vers ce que Dieu a pensé. C'est pourquoi l'église reste fréliquette. Tout ce que Dieu a promis, les choses miraculeuses et puissantes, restent dans l'invisible et ne peuvent pas opérer dans la maison de Dieu. Pourquoi? Les hommes laissent les procédés de Dieu. On utilise nos calculs, nos systèmes, nos techniques. On utilise nos relations. Et c'est ainsi qu'on reste loin des plans de Dieu. Maman, continue.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent.
Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons
pour se perdre.
Pour nous perdre. Nous ne nous retirons pas pour nous perdre. Écoute, ceux qui se retirent du modèle opératoire par la foi se perdent. C'est ce que dit ce texte. Ils se perdent. Déception, chagrin, le cœur courroucé, le cou comme ça. On a le tabou des gens, on regarde les gens, on dit que telle personne n'est même pas beaucoup. Parce que tu aurais souhaité qu'il ait un peu d'attention pour toi. Parce que toi-même, tu n'as pas réalisé que si tu entres dans tes fonctions, les gens vont courir après toi. Écoute, nous tous, nous sommes supposés être des points de mine. Nous sommes supposés être des points d'attraction. Nous sommes supposés être les instruments de transaction divine par lesquels nous faisons les opérations divines. Comme à la maternelle, on applique 1 plus 1 égale 2. Nous nous mettons et nous déclarons, le Seigneur est accompli à l'accomplissement. Toi et moi, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Mais pourquoi l'Église est si pauvre en puissance, pauvre en présence, pauvre en intimité, pauvre en impact? C'est qu'elle a méprisé les richesses et la profondeur de la connaissance de Dieu. Traduit dans les Écritures. Trop de choses sont méprisées dans l'Église. Et je le dis, et j'ai envie de le dire, de le crier de plus fort. Je suis allé dans une église l'autre jour, on m'a appelé et je leur parlais de pourquoi les églises échouent et pourquoi les églises doivent échouer. Après, on m'a appelé, les responsables de cette église m'ont appelé pour dire que mais tu es en train de dire quoi. Quand j'ai commencé à expliquer, ils disent que c'est vrai. J'ai dit que mais changez votre façon de fonctionner. Vous reconnaissez que c'est vrai et vous ne bougez pas. Et c'est ça le malheur de l'église. On va enseigner comme on enseigne là. On va dire des vérités, mais on ne bouge pas.
On ne bouge pas. On a toujours fait comme ça. Ça, c'est le essai. On n'a que fait comme ça. Quelqu'un qui prend une voix qui ne produit pas. Il est dedans. Tu lui dis que ça ne produit pas. Là, tu es en train de tomber. Il dit que je suis tombé. Mes parents sont dedans. On va te caler dedans. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour nous perdre. Les raisonnements, les systèmes de pensée vont t'amener loin. Tu ne vas pas expérimenter la faveur de la grâce de Dieu, la profondeur de la puissance de Dieu, la profondeur de l'investissement divin. Oh, que Dieu a investi dans son église. Regardez, cette église est pleine de personnes qui devraient être du fond efficace pour la nation. Mais le Cameroun passe par des moments difficiles et les hommes qui se lèvent sont presque invisibles. Les problèmes du Cameroun ont modifié la vie de qui parmi nous? Je ne dis pas les choses qui t'obligent à changer de façon de vie, à payer le loyer un peu plus cher parce que nos frères de Bamenda sont venus. Ce n'est pas de ça que je te parle. Je parle des gens qui vont réaliser qu'il faut payer le prix maintenant. Entrer en bataille spirituelle, gagner des choses, prendre possession de la nation. Et Dieu a besoin d'une autre armée. Écoutez, ça a dépassé le billet. Ça a dépassé le billet, ça a dépassé nos dirigeants, ça a dépassé l'homme naturel. Les forteresses qui se sont assises dans cette nation demandent des hommes qui ont l'intimité avec Dieu. Si on n'a pas d'intimité avec Dieu, on va regarder les choses à distance. Et on va passer le temps à faire les commentaires comme les païens dehors. Ils font les commentaires parce qu'ils n'ont rien. Mais toi, tu es supposé avoir l'alliance, tu es supposé avoir la connexion avec Dieu. Pourquoi tu n'appelles pas Dieu? Ton impact devait être différent de celui du païen. Pourquoi tu cries? Les païens crient d'une façon, tu cries plus que eux. Tu fais comme eux, tu t'attends aux mêmes choses que eux. Tu dis que si Kamto avait pris le pouvoir, ce serait quelqu'un. Du courage, dialogue. Comment peut-on construire la paix sans le prince de paix? Comment est-ce possible de construire la paix dans cette nation sans le prince de paix? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui va faire que tu dois prier, tu dois fléchir les genoux, tu dois commencer à crier la vérité, tu dois annoncer la parole de Dieu, tu dois te lever dans tes missions prophétiques, parler au Père, invoquer le ciel sur la terre. Dieu a investi pour que l'église soit bouillonnante, qu'elle soit un feu vivant au milieu de la nation. Elle soit un feu qui arrête des décrets, qui soupe dans l'intimité avec Dieu pour arrêter des décrets. Mais où sont-ils? Écoute, les choses qui peuvent te bloquer entre autres, c'est qu'il y a la prétendue lenteur de Dieu. Beaucoup de gens estiment que Dieu est lent. Alors ils préfèrent utiliser leurs moyens que de prendre les moyens de Dieu, c'est pas ça. Il dit que non, si je m'en vais prier Dieu, je ne suis pas sûr du temps où il m'aidait. En attendant, je fais d'abord telle chose. Aide-toi le ciel. Donnez à César ce qui appartient. Dieu fait sa part au ciel. Je fais ma part celui-là. Sur la terre. C'est ce que les gens font. Et à force de raisonner comme ça, l'être humain s'écarte de la faveur et de la grâce de Dieu. Tout ce qui est efficace dans la vie d'un chrétien, c'est ce qui est étroitement dépendant du Saint-Esprit. Tout ce qui n'a pas l'empreinte du Saint-Esprit à notre époque est mort. C'est une feuille morte. Écoute, quand on dit même qu'on appréciera l'intelligence renouvelée, c'est une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit au travers des Saintes Écritures. Écoute-moi bien, le temps de Dieu est le meilleur. Satan passe le temps à te dire que tu as beaucoup attendu. Comme tu as beaucoup attendu à l'église, l'église n'a pas réagi. Allons chercher, allons voir. Ce n'est pas ce que les gens font. J'ai beaucoup attendu, allons maintenant voir. Chez celui qu'on croit plus puissant que Dieu, il ne dit pas, vous ne dites pas ça de votre bouche. Mais quand tu laisses Dieu pour aller chercher celui-là, ça veut dire que tu insultes Dieu. Tu dis à Dieu qu'il n'est pas capable de te faire certaines choses. Alors tu vas chez celui qui va faire. Tu veux voyager, tu ne sais pas l'issue du voyage. Tu ne peux pas mettre ta confiance en Jésus. Tu vas chercher si ça va bien se passer. C'est quel genre d'église? Le charlatanisme. C'est quoi ça? Écoute, Dieu n'est pas lent. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est simplement que le déphasage du péché nous a amenés à ne plus savoir attendre la maturation des projets divins. Regardons voir les choses. Un petit exemple. Quand Dieu a créé le monde, il a pris le temps de créer en 7 jours, qui est le temps divin. Il a créé les choses, il les a amenées à maturité. Mais aujourd'hui, l'homme est tellement pressé que nos poulets, c'est les poulets électroniques. On prend un poulet, 45 jours, il est prêt, on mange. Comment on ne doit pas mourir comme le poulet? Écoutez. Non, mais si tu manges ce qui meurt, à ce qui meurt, ce qui se nourrit de cette façon, c'est pour toi aussi suivre le même chemin. C'est pourquoi les produits bio aujourd'hui coûtent cher. Parce que les produits bio ont été bâtis sur le temps. On a cultivé sur le temps. C'est pourquoi quand on a investi le temps, ça coûte plus cher. Mais je ne sais pas pourquoi tu aimes faire tout à part le wassa wassa. Je ne sais pas moi. C'est quoi ça même? Non, franchement, c'est quoi ça même? Je ne sais pas pourquoi tu aimes tout courir. Et puis tu dis que Dieu est lent. Et comme tu trouves que Dieu est lent, tu as un problème. Le problème te tient au bout. Depuis, tu ne sais plus quoi faire. Et te voilà. Tu as tellement réfléchi aux portes qui peuvent s'ouvrir. Comme tu as réfléchi, tu n'as pas vu les portes s'ouvrir. Tu allais toquer là où tu sais toi-même que la peine va t'amener au regret. Tu allais toquer là-bas pour emprunter l'argent. Tu allais toquer là-bas pour qu'on te secoue, sachant bien ce qu'on va te demander en retour. Et tu es là, tu écoutes les prédications. Ça entre dans tes oreilles, ça bouleverse tes dents. Mais tu vas faire comment? Tu dis qu'on va faire comment? On va faire comment? On est déjà dedans. C'est comme si Dieu nous a oubliés. Moi, il ne sait pas moi. Écoute-moi. Tu t'es oublié toi-même. Comme l'incrédulité t'a séparé de la grâce. T'a séparé de la grâce. Dieu n'est pas lent dans ses interventions. Écoute, il y a d'autres choses qui prévalent dans la pensée de l'homme lorsqu'il s'engage dans la voie du salut. Satan fait un retour dans le passé. Il essaie de lever tes incapacités d'hier pour montrer qu'aujourd'hui tu seras encore incapable. Écoutez, quand il voit l'échec des disciples devant le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il acclame en âme. Qu'est-ce que ça fait dans la tête des disciples qui viennent de braver les démons ailleurs? Ça les refroidit, vrai ou faux? Ça les refroidit, ça leur donne l'impression que non, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Et Satan aime faire ça avec toi. Je me rappelle un jour, je me suis mis à prier pour un enfant. J'ai prié pour une enfant, pardon, ce n'est pas un enfant, une enfant. J'ai prié pour elle, prié. Je chasse les mauvais esprits. Et je vois apparemment, rien ne se passe physiquement. Je chasse les mauvais esprits, rien ne se passe physiquement. J'ai tellement chassé que la voix intérieure me dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi chasses-tu ceux que tu as déjà chassés? Pourquoi? Tu as dit, ta parole, quand tu es mandaté, ta parole suffit pour que je l'accomplisse. Pourquoi tu as besoin de répéter les paroles comme si tu ne croyais pas? Il y a beaucoup de prières que nous faisons qui sont les prières d'incrédulité, qui sont des abominations devant le trône de Dieu. Tu confesses ton incrédulité par les prières que tu fais. Tu t'élèves devant Dieu, tu martèles, tu fais des choses. Je ne dis pas qu'on ne peut pas insister. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a des prières dont la fondation, c'est le désespoir, c'est l'incrédulité, l'absence de foi. Et ces prières ne peuvent pas porter. Elles te laissent dans le désespoir, elles te laissent dans la déception, elles te laissent dans la désillusion, elles te réduisent, elles t'amenuisent, elles te détruisent. Et à la longue, tu n'as même plus le courage de prier pour quelqu'un. Pourquoi? Quand tu as répété deux, trois fois la prière par la chair, tu vas te coucher à la maison, tu dis que c'est comme si pour moi n'est pas vrai, c'est comme si Dieu ne me connaît pas encore. C'est vrai ou faux? Et peut-être il m'a oublié ou il ne veut pas avec moi. Et les plus courageux se taisent. D'autres qui ne sont pas courageux disent que non, Dieu va que faire avec moi. Et ils commencent à forcer. On a des gens qui ont forcé comme ça. Ils ont commencé la prophétie dans la maison de Dieu sans que Dieu ait fait de les prophètes. Ils parlent au nom de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés. Et ils parlent et ils insistent, ils martèlent. Dieu ne t'a pas envoyé. Et toi, tu parles. On attend que ce que tu dis s'accomplisse. On ne voit pas. Tu n'as même pas le courage de dire à Dieu, Seigneur, j'ai menti, je me repens. Et tu ne fais que continuer. Mais arrête-toi-même, tu te repens d'abord. Comment vas-tu continuer dedans et t'en sortir? Satan aime rappeler le passé, te rappeler tes échecs et te montrer que ton échec est un vêtement qui te va très bien. Il te rappelle que ton échec est un vêtement qui te va très bien dans le but de te détruire, de réduire et d'anéantir la foi en toi. Il aime bien manipuler ça. Et du coup là, tu as l'impression que non, c'est Dieu qui t'a oublié. C'est Dieu qui ne veut pas travailler avec toi. Pour toi est spécial. Pour toi n'est pas bon. Non, j'aimerais lever des personnes qui avaient une vie mauvaise. Dans la Bible, l'apôtre Paul, la Bible me parle d'un soldat de Tarse qui tuait, qui malmenait les chrétiens, qui avait toutes les mauvaises choses en lui. Il a pris le sang des gens. Mais le jour où il a confessé, Dieu l'a pris. Écoute, le pont ne s'est pas cassé. Je suis en train de dire à quelqu'un qui dit pour moi ne marche pas, que pour toi n'a pas dépassé Dieu. Pour toi ne peut pas dépasser Dieu. Pour toi ne peut pas dépasser Dieu. Écoute, il y a ce jeune garçon, ce
jeune enfant qui a vécu longtemps dans le cimetière. Il était possédé de démons vieux, violents que Seigneur. Quand Jésus arrive dans la ville, ça avait dépassé des gens pendant de longues périodes. Et on pouvait dire, Jésus va faire quoi de nouveau sous le soleil. Mais quand Jésus s'est présenté à distance, il s'est passé que les mauvais esprits ont commencé à paniquer, à s'agiter. Jésus les a sortis de cet enfant. Il les a mis sur le dehors. La situation ne dépasse pas la situation de ce possédé. Écoute-moi bien. Je voudrais te dire, il n'y a rien que tu portes, aucune difficulté que tu portes, qui pèse plus que Dieu. La balance de Dieu est suffisante pour te porter. Si tu as créé à son image et selon sa ressemblance, c'est parce que tu étais le prolongement de sa main. Tu étais l'empreinte de sa main dans le monde visible. C'est pourquoi il te charge des responsabilités de le représenter. Écoute-moi, nous représentons le Dieu vivant sur la terre. C'est pourquoi nous régentons, nous dirigeons la création. Dieu ne t'a pas fait comme tu es, belle, beau, pour rien. Il t'a fait parce que tu dois être le reflet de sa personne. Si ça ne marche pas, bien aimé, sois honnête, pose les choses, dépose les choses, ne force pas beaucoup. Dis à Dieu le vrai problème. Ne te cache plus, ne te réfugie plus dans tes zones de confort. Ne mène plus la double vie, n'aie plus une double dimension. Frère, je t'ai dit, sœur, je t'ai dit que si tu ne brises pas ce voile, tu n'entres pas dans cette dimension d'intimité. Dieu va longtemps attendre. Le projet qu'il a fait pour toi, il ne va pas voir. C'est pourquoi on a l'église pleine des hypocrites. Excusez-moi, on dit souvent que je suis brutal quand je parle. Mais l'enfer est plus brutal que ce que je dis. Non, si je manque de te le dire, et toi tu vas là-bas parce que tu as fait le théâtre, personne ne te l'a dit, je ne t'ai pas aimé. Mieux vaut que je te châtie avec les paroles violentes ici, pour que tu sauves ton âme. Au lieu de te caresser dans le sens du poil, tu vas en enlever. L'église de Jésus-Christ est pleine de personnes qui ne savent pas où elles vont, qui ne connaissent même pas le Dieu qu'elles servent. Bien-aimé, Dieu s'est révélé, il s'est manifesté et il veut composer avec toi. Qu'est-ce que tu portes dans ta vie qui t'amène à douter de la puissance de Dieu? Qu'est-ce que tu portes dans ton histoire qui t'amène à dire non, c'est trop, j'ai trop fait? Étais-tu prostituée? Si tu étais prostituée, la Bible nous rappelle qu'il y a une Marie dans la Bible qui était prostituée. Elle est venue finalement essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Jésus a créé le parfum de son adoration favorablement parce qu'il a vu les dispositions de cœur. Il y a des choses qui font changer Dieu, qui font que Dieu change ses positions te concernant. Si Dieu voit la sincérité de cœur, Dieu change, Dieu sort de la révolte qu'il avait contre toi. Il abandonne ses plans de vengeance. Il cesse de vouloir te frapper. Il change d'attitude. La seule chose qui bouge Dieu de sa position, c'est ton cœur. La seule chose qui bouge Dieu de sa position, c'est ta sincérité. Et si tu n'es pas sincère au fond, on va beau t'attendre. Le monde va t'attendre. On ne va pas voir le fils de Dieu. On ne va pas voir la vie de Dieu. On va voir une religieuse, elle qui vient tous les dimanches. Elle signe la carte de 5 et 7. Elle chante dans une chorale. Elle a la tenue de la chorale. Elle connaît les versets bibliques. Elle connaît les cartes. Mais elle ne fait pas. Dieu ne la connaît pas. Et ça sert à quoi? De faire tout ce que tu fais sur la terre, aller au ciel, Dieu te dit qu'il ne te connaît pas. C'est terrible, non? Une autre chose que Satan aime faire, motiver dans notre vie, c'est nous accompagner mal, les mauvaises compagnies. Beaucoup de gens n'évoluent pas dans leur vie parce qu'ils ont des amis qui ne partent pas au ciel. Amos 3:3 dit, est-ce que deux personnes marchent-elles ensemble sans se convenir? Oh, ton ami, est-ce que ton ami vraiment travaille pour t'amener à mieux craindre Dieu? Depuis que tu marches avec l'ami, là, ça te donne quoi? Ça change. Il y a des gens d'amis, quand ils viennent te rendre visite, après là, tu te sens mal, vrai ou faux? Parce que toutes ces causeries, c'est le Congo, ça, c'est les gens. Ce n'est jamais le royaume. Ce n'est jamais te motiver à grandir. De tels amis, on les laisse. Ce ne sont pas des amis du ciel. Laisse-les. Ne marche pas avec eux. Et moi, j'ai dit souvent aux gens, mais à l'UCG là, que si tu marches avec quelqu'un, il est même au groupe là. La personne là n'apporte rien qui te fasse grandir. Je ne dis pas que tu sois impénissé. Mais quand tu es en présence de la personne, c'est toujours le péché. Toujours t'amener derrière. Laisse-le. Ce n'est pas un compagnon du ciel. Laisse-le. Il ne va t'amener nulle part. La mauvaise compagnie. Cette voisine qui te rend visite, qui de temps en temps te donne des petites choses, qui de temps en temps se montre chaleureuse, qui n'apporte rien. Quand elle part, les maladies se suivent, s'en suivent dans ta famille. Cette voisine, ce voisin qui passe le temps à sourire avec toi et qui tout le temps travaille à te ramener derrière, ça ne t'apporte rien. Arrête la relation là. Je ne dis pas que tu ne le salues plus. C'est pas de ce de quoi je parle. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas appeler une telle personne ton ami. Il ne peut pas partager ton ami. Satan va t'amener derrière. Tu ne vas pas évoluer avec moi.
On se comprend bien. Il y a des compagnies desquelles tu dois te séparer. En dehors des compagnies, on trouve souvent que la grâce de Dieu est trop bon marché. Au point où on dit Dieu est trop bon. C'est pas ça. Et on traite Dieu comme un petit garçon de course qu'on envoie tout le temps. On l'appelle lorsqu'on a besoin de lui pour remplir nos besoins. Le jour où on est dans l'abondance, on ne lui dit pas. On ne lui dit pas merci. Mais le jour où on a besoin de lui, on dit partout qu'il nous a oubliés. On raconte à tout le monde nos misères. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par des cieux. Tu ne peux pas procéder autrement. C'est le royaume des cieux et le reste. Écoute-moi bien. Dieu est capable de t'affranchir, de te libérer de ce qui avait fait de toi un prisonnier, une prisonnière. Quand je parle comme ça, l'écho de ma voix sonne. Il y a des hommes ici qui ont des problèmes d'infidélité. Et des femmes, elles ont des problèmes d'infidélité. C'est-à-dire qu'elles vivent dedans depuis et elles sont convaincues que rien ne peut les sortir. L'épouse avec laquelle tu vis n'est pas au courant de ce que tu fais. Mais Dieu est au courant de ce que tu fais. On n'est pas au courant, mais Dieu est au courant de ce que tu fais. Et Dieu te dit que tu ne peux pas prospérer dans cette voie. Tu ne peux pas t'en sortir. Et il y a des gens qui sont mariés ici, mais leur sexualité n'est pas décrite. Pourquoi? Ils vivent dans la saleté. La saleté sexuelle. Excusez que je parle de ces choses de façon brute comme ça. Ça nous tue, ça ne nous aide pas. Et il y en a qui fonctionnent vraiment. Dieu veut que tu reviennes. Quel est ton fardeau? Quel est le souci que tu portes depuis? Quelle est la charge que tu portes depuis en toi? Quelle est l'histoire que tu as qui n'a jamais changé dans ta vie et que tu crois que ça ne peut pas changer? Jésus te dit aujourd'hui qu'il veut traiter avec ça. Jésus veut arrêter ça dans ta vie. Jésus a eu le pouvoir d'arrêter la mort. Jésus veut arrêter cette forme de mort dans ton histoire. Jésus veut arrêter cette forme de descente vers la tombe dans ton histoire. Est-ce que tu vas lui ouvrir la porte de ton cœur pour dire à Jésus, Seigneur, je veux composer avec toi? C'est le violent qui s'accapare du royaume des cieux. Écoute-moi bien. Si tu n'es pas assez violent pour sortir de la marche commune, pour apprendre à chercher Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Il y a plein de versets bibliques qui nous montrent que Dieu est capable. La Bible l'appelle El Shaddai. Et bien d'autres choses qu'on va voir demain. On va nous donner ces attributs. Mais au-delà de cela, plein de versets bibliques. Et la Bible dit, Jean 1, verset 1, ça dit quoi? Au commencement était la parole. Est-ce que la parole est au commencement de ta vie? La parole, c'est l'instrument qui motive la foi. La parole, c'est l'instrument qui te donne la bonne esprit spirituel. Si la parole n'est pas activée dans ta vie, la prière n'est pas activée dans ta vie, écoute-moi bien, tu vas mener une vie frédiquette. S'il y a des esprits d'incrédulité en toi qui se sont assis, le traitement de certains types d'esprits d'incrédulité, c'est le jeûne et la prière. Mais ce ne sont pas des formules magiques. C'est la dévotion que tu offres à Dieu, l'attitude de dépendance à Dieu que tu montres qui fait la différence. D'ailleurs, tous ceux qui prient montrent par leur acte de prière et de dévotion qu'ils sont des êtres faibles. C'est vrai ou faux? Dès que tu pries, tu montres que tu es faible. Moi, je suis faible. C'est pour ça que je prie à Dieu. Mais dans ma faiblesse, Dieu transforme ma force, ma faiblesse en lui, en puissance. C'est quand je suis faible que je deviens alors fort. Parce que celui qui est derrière moi est plus puissant que tout le monde, toutes les difficultés. Jésus est celui qui a ressuscité les morts de la tombe. Dieu a parlé dans la vie des gens qui sont changés. Il y a des gens peut-être autour de toi. Tu as vu un moment, il a cru en Dieu, il a complètement changé. Et tu te demandes ce qui se passe. Tu te demandes si ça pourrait arriver dans ta vie. C'est possible. Dieu peut composer avec toi. À condition que tu lui ouvres les portes, que tu lui laisses tout ce soir. Que tu lui dis, Seigneur, je suis fatigué de combattre, de réfléchir. La Bible dit 2 Corinthiens 10, verset 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas. Elles sont puissantes que par la vertu. Par la vertu de Dieu. Par elles, nous renversons l'effort. Je voulais dire, la forteresse de l'incrédulité n'a peut être renversée. Ça va être renversé si tu te permets à Dieu de composer avec toi ce soir. La forteresse de ton passé peut être renversée. La forteresse de ton péché répétitif du passé peut être renversée aujourd'hui.
la forteresse de tes analyses. L'image que tu as de toi peut tomber au haut aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont péché les chemins dans leur tête, les façons de se regarder. Ils ne se regardent pas comme Dieu les regarde. Vous savez, un moment, j'ai changé la prière. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à connaître qui je suis. Parce que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Je passais le temps à me regarder selon l'homme du passé, l'homme des échecs du passé, l'homme que le monde a vu. Et je me regardais dans ses faiblesses et dans ses limitations. Quand j'ai compris que je n'étais pas celui-là, celui-là était celui que Satan avait vaincu. Le vrai moi était en Dieu caché. J'ai commencé à dire, Seigneur, tu connais le vrai moi. Révèle-le, le moi, que je commence à le confesser. Je commence à l'entretenir. Je commence à le nourrir. Le vrai toi souffre déjà trop en prison. Il doit sortir. Le vrai toi a déjà trop souffert. Trop souffert. Il doit sortir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai toi doit commencer à marcher dans les ruelles de Bafoussam. Le vrai toi doit se déployer dans ce pays. C'est le vrai toi que la nation attend. La nation attend d'elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est le fils de Dieu qui est en toi qui doit sortir. C'est lui dont le pays a besoin. Ta famille a besoin du vrai toi. Tu as longtemps discuté avec le vrai toi. Depuis il souffre dans les prisons de tes caprices, de tes désirs, de tes tendances, de tes inclinaisons, de tes penchants. Le vrai toi doit sortir. Donne-lui la possibilité de sortir, d'adorer le Dieu vivant, de commencer à faire ce que Dieu a dit qu'il doit faire. Écoute, tu as été sauvé pour les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance. Ces bonnes œuvres doivent sortir. Tu n'es pas fatigué d'avoir les mauvaises choses que tu as dit. Tu n'es pas fatigué d'avoir une double identité. Tu n'es pas fatigué toi-même de vivre dans le faux. Est-ce que tu n'as pas peur des moments où tu vas fermer les yeux que Dieu te dit parce que tu es faux? Écoute-moi bien. Tu dois remporter cette bataille. Tu dois entrer dans l'intimité avec Dieu. Lui laisser les armes ce soir. Il le faut. Si tu as confessé Jésus-Christ, crois à partir de ce soir. On ne peut pas utiliser le mot croire d'une autre manière. On ne peut pas te dire ça autrement. C'est que tu dois t'abandonner. Tu dois te laisser entre les mains de Dieu. Il est capable de donner l'avenir. Il est capable de faire aimer l'homme spirituel. Il est capable de t'amener. Les grands hommes de Dieu et même des grands hommes de la société ont confessé que Dieu est tout puissant, qu'il peut faire toutes choses quand il veut. Les grands hommes l'ont déclaré. Et moi, je ne veux pas seulement parler de ces grands hommes comme si moi-même je n'étais pas un autre homme que Dieu a rendu grand. Écoute, moi je peux te déclarer aujourd'hui que ce que Dieu déclare, il le fait. Vous êtes tous témoins que tout dernièrement, je suis passé par des moments quasi mortels et que j'étais carrément mort. C'est la vie de Dieu à moi. C'est Dieu qui a décidé de me sortir de là. Le Dieu que nous servons là est vivant. Écoute-moi bien. Je ne dis pas ce que les gens ont dit ou vont me dire. Je t'ai dit que j'ai vécu cela. J'ai vu Dieu changer des pronostics arrêtés, les sorts arrêtés. La médecine avait déclaré des choses. Des choses étaient arrêtées et déclarées sur ma vie. Mais bien, le processus allant vers la tombe était arrêté. Je ne sais pas vers quelle tombe toi tu pars. Je ne sais pas ce qui t'amène vers la tombe. Mais Dieu te dit que tel il a fait dans ma vie, il peut faire dans ta vie. Je ne veux pas te parler de quelqu'un qui est imaginé ou bien quelqu'un que je ne connais pas. Je te parle de moi, me voici. J'ai vécu parmi toi, tu me connais. Ou alors tu m'as souvent vu. Dieu l'a fait dans ma vie et Dieu est capable de le faire dans ta vie. Je ne connais pas comment on appelle ta tombe. Quel que soit le nom de ta tombe, quel que soit le nom du cimetière dans lequel Satan t'entraîne depuis, le jour où tu as dit que tu crois en Dieu, il y en a ici. Quand il a commencé à croire en Dieu, quand il a commencé à faire comme s'il va s'engager, c'est comme si le séjour des morts s'est réveillé. Et c'est comme si les problèmes se multipliaient, comme pour dire qu'il ne prie plus. Et il y en a qui ont écouté. Il dit que non, quand je prie, les problèmes se multiplient, mieux vaut que je ne prie plus. Erreur. C'est une faute. C'est une faute grave. Écoute, quand les problèmes s'élèvent, ça veut dire que les moyens que Dieu va déployer pour glorifier son nom dans ta vie vont être grands. Écoute-moi bien. Les problèmes s'élèvent parce que Satan doit revendiquer ses positions dans ton histoire. S'il ne revendique pas, c'est comme si... Et vous savez que c'est quelqu'un qui n'abandonne pas vite. Il faut seulement le gifler et insister. Il faut seulement lui dire que tu as perdu et tu vas encore perdre. Tu as déjà perdu. Jésus a tout accompli. Et je manifeste cela dans la vie pratique pour qu'il se lâche prise. C'est un monsieur qui tue. Donc si tu pries, les problèmes se multiplient. Accélère. Ça se multiplie.
accélère. Tes yeux disent que c'est grave. Dis à tes yeux que je ne vis pas par la vue. Je vis par la foi. Dis à tes problèmes que je ne suis plus l'homme qui passait le temps à pleurnicher. Jésus s'est levé dans mon histoire. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. La sœur qui pleurnichait, tout le temps en train de bavarder, de pleurnicher, de raconter sa misère aux gens, c'est fini. Je suis né de ce sang. De la race de Jésus. Je me lève et je marche vers ma destinée. Satan, tu ne peux pas. Jésus a payé le prix. Tu ne peux pas. Écoute, Dieu est tout puissant, tout capable dans ta vie. Je ne sais pas moi ce qui t'a détruit depuis, qui t'a réduit. Ce qui fait que tu as perdu ta joie. Ce qui fait que tu as perdu la confiance en Dieu dans ta vie. Tu as perdu la confiance en toi-même, le petit que tu avais. Je ne sais pas moi. Mais Dieu te dit ce soir que ici, là, dans ce lieu, il y a assez de présence. Il y a le conseil des cieux pour t'accompagner dans les sentiers de la restauration. Je suis en train de t'annoncer ce soir que c'est possible que l'homme que Dieu a pensé sorte des tombes et qu'il marche. Jésus a dit, Ephata, ouvre-toi. C'était à qui? Il parlait pour le cas de qui? L'Ephata de Jésus dans la vie de Lazare. Elle tient ce soir. Dieu veut ouvrir la tombe de ton histoire. Je ne sais pas moi où tu es caché. Il y a l'autre qui est caché là. Je vois un élève depuis qu'il a commencé, il a pris confiance en lui. Tellement qu'il est à l'école, qu'il est sûr qu'il est un com. Et que il est là pour accompagner les autres. Je veux te dire que c'est faux. C'est les idées que Satan te met en tête. À partir d'aujourd'hui, dépose-les, commence à travailler. Dis à Jésus, je reconnais que je suis dans le faux. À compter d'aujourd'hui, je chante. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Écoute-moi bien. Tu chanteras ce cantique. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Tu ne vas pas le voir dans la vie des autres personnes. Tu vas le voir dans ta propre vie. Tu ne vas pas l'entendre raconter dans la vie des autres. Tu vas le voir opérer dans ta vie. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je ne prends pas plaisir à lui. Écoute-moi, tu ne peux pas vivre sans la foi. Et dit, quels que soient les moyens, c'est les relations que tu utilises depuis, les techniques, les réflexions, laisse ça. Ça n'opère pas dans le royaume de Dieu. L'armée de Dieu opère par la foi. Elle opère par le Saint-Esprit. Si tu veux commencer à compter pour Dieu dans cette nation, tu veux commencer à opérer, tu veux que Dieu t'utilise, commence à dire à Dieu, je ne vais plus faire les choses par les raisonnements, par la réflexion. C'est par la foi que je vais commencer une nouvelle histoire. Si tu ne brises pas ce mur, tu ne pourras pas grandir. Écoute, c'est le premier mur qui te sort de la classe des enfants pour t'amener dans la classe des disciples. Écoute-moi bien. Il y a beaucoup de gens qui se fait des idées dans nos têtes. Écoute, tant que tu n'es pas sorti de là, tu n'as pas traversé cette porte, tu ne peux pas être appelé disciple de Jésus. Parce que les disciples de Jésus ne servent par amour. Ce n'est pas par obligation. Tous ceux qui font par obligation sont des esclaves, ils ne sont pas les disciples. Les disciples font par amour. Ils s'astreignent, ils se livrent, ils se séparent par amour. Ils se donnent par amour. Et tout ça parce qu'ils ont compris que Dieu est tout capable. Dieu est tout puissant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que sa tombe peut s'ouvrir ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Fata adressé à Lazare, lui est adressé ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que sa destinée peut prendre un nouveau courant ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'un nouvel matin s'annonce dans son histoire?